Cette fois-ci, on va parler des traitements d'arrière-plan. Donc, c'est moins fun que la 3D, hein, je suis désolé. on passe carrément de la 3D directement au batch. Donc, allons-y. Celle-là, j'ai déjà faite. Alors, les batchs, gestion des logs et analytics. Donc, il y a plusieurs possibilités pour faire des batchs dans Azure. Alors, une des premières possibilités qui peut venir à l'esprit, c'est les worker roles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas beaucoup parlé beaucoup des cloud services, web roles et worker roles, parce que les nouveautés vont surtout sur les VM ou sur websites. Donc voilà. Et puis également sur d'autres services, comme là, par exemple, le scheduler, donc qui permet de faire des appels à des API REST et donc déclencher un peu ce que vous voulez. Suivant un calendrier que vous allez choisir. Donc, vous allez dire effectivement à telle heure, je vais faire un appel GET sur sur mon API, et puis ça va lancer ce que vous voulez, quoi. Donc, ça, c'est un déclencheur qui est disponible dans le portail Azure. Ensuite, vous avez un deuxième élément qui s'appuie sur le premier, qui est Azure Automation. Donc Azure Automation, en fait, c'est un host de PowerShell, donc le langage de scripting Microsoft, qui permet de lancer en fait des workflows PowerShell. Donc dans ces workflows PowerShell, pourquoi est-ce qu'on a choisi des workflows plutôt qu'autre chose? C'est parce que il y a des mécanismes en fait de haute disponibilité, il y a des points de persistance, etc. Ça rappellera des choses aux personnes à qui je pense. Donc on a des mécanismes de points de persistance, etc. On peut reprendre au milieu d'un script, etc. Et donc, c'est ce que font les workflows. Donc, à quoi est-ce que ça peut servir? Évidemment, à faire toutes les tâches de maintenance qu'on peut avoir classiquement depuis un script. Donc, on va avoir, je sais pas moi, backupé une base, patcher une VM, réagir à des alertes, etc., etc. C'est à ça que peut servir ce système-là. Alors, on peut le voir aussi comme étant un conteneur d'automatisation de façon générale sur Azure. Alors, on va voir dans le détail qu'est-ce que j'ai fait là-dessus. Alors, je suis allé, pardon, dans. Ça, c'est mon Outlook à moi, c'est le nouveau portail. Donc, si on va sur notre portail, j'ai créé un conteneur automation, et dans ce conteneur automation, j'ai créé un runbook. Donc, ce runbook, en fait, c'est là où on va mettre le script PowerShell qu'on fait. Qui parmi vous connaît PowerShell ou utilise du PowerShell? D'accord, il y a. Il y a quelques personnes quand même, c'est bien. Même une bonne proportion. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire du PowerShell dans le navigateur. Donc je vais là. Et une fois que j'ai créé mon job, donc là, si je veux l'éditer, donc là, j'ai le job qui tourne en prod, si on veut. Et puis je peux éditer la version N plus 1. Donc je vais directement dans le navigateur. Et je vois mon script. Donc là, le but de ce script-là, c'est d'aller regarder les différentes VM qui sont en train de tourner, les différents websites, mes clusters HD Insight, etc. De façon à ce que le soir, plutôt que d'aller regarder dans toutes les parties du portail s'il y a des choses qui sont allumées ou pas, je puisse aller regarder le log de ce script. Première chose, je vais aller récupérer le certificat. Qui me permet d'accéder aux différents abonnements Azure qui m'intéressent. Donc pour faire ça, soit je sais exactement que ce que je veux, c'est faire un Get Automation Certificate -M Azure Admin 3.4.fr, soit je lui demande. Et donc, en fait, je vais faire un peu comme ce qu'on a dans le PowerShell ISE, Insert, Setting. Et puis là, je vais dire get. Alors là, c'est un certificat que je veux. Get certificate. Là, j'ai celui-ci qui est disponible. Dans mon environnement Azure Automation, je peux saisir des connections, des variables, des crédentités également uploader des certificats. Donc là, par exemple, c'est un certificat qui m'intéresse. Donc je vais faire ça et ça va aller me générer cette chaîne de caractères, donc qui va me permettre effectivement d'aller mettre ça dans une variable, donc myCert égale, et puis voilà. Donc j'ai de la coloration syntaxique et tout. Ensuite, je suis dans un workflow, donc il y a des limitations dans les workflows. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt me mettre dans un inline script, et puis à partir de là, je vais lancer tout mon script comme ça. À la suite, bon. Donc voilà, et puis je peux tester, je peux le mettre au point, etc., etc. Et une fois que j'ai fini, je me dis, ce sera jamais aussi bien que la prod, et je fais discard, et je reviens à la version de prod. De façon à pouvoir vous montrer la façon dont ça se présente. Alors, donc, si je regarde maintenant l'exécution, hop, donc j'ai les différentes exécutions qui ont eu lieu. Donc, par exemple, ici, alors c'est à 18h hein, que ça tourne. Comme ça me permet de partir à 18h01 du bureau. Alors, et voilà. Et donc là, j'ai l'exécution. Donc je vois effectivement que j'ai mes différentes machines qui sont arrêtées pour la plupart. Sauf ici, hier, on avait. Là, c'est l'exécution d'hier à 18h. Donc on voit effectivement qu'il y a quelques machines pour les démos qui ont été démarrées. Donc ça, c'était toute la partie Nginx, Varnish, Cassandra qu'on a vu tout à l'heure. Qui était démarré, et puis je vois aussi les sites web, les websites, etc. Hop. Voilà, donc ça c'est la partie Azure Automation, donc qui est assez pratique pour pouvoir faire ça. Alors je vais vous montrer quand même où sont les assets. Voilà. C'est ici en fait que je vais pouvoir saisir les différentes connexions. Donc là, je peux ajouter un setting. Donc là, je dis est-ce que je veux rajouter une connexion, une crédentité ou un certificat, etc. Donc là, par exemple, c'est comme ça que j'ai saisi un certificat, mais je peux aussi saisir un username, password, etc., etc. Donc ça permet d'avoir un script qui est relativement standard et qui contient aucun secret et qui, quand il va s'exécuter dans cet environnement, va pouvoir effectivement contenir, accéder à l'environnement lui-même. Très bien. Donc ici. Donc ça c'était Azure Automation. Donc ensuite, il y a la partie, donc là j'ai montré comment est-ce que je pouvais déclencher des traitements, comment est-ce que je peux exécuter des scripts. Maintenant, supposons que mon job, ça corresponde à une tâche d'arrière-plan qui va par exemple modifier des images quand elles sont en train d'arriver sur mon site web ou traiter des messages qui arrivent dans la queue avant que ça ne fasse vibrer Julien, etc., etc. Donc, pour faire ce genre de job-là, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les web jobs. Donc, le principe des web jobs, c'est ça s'exécute dans les mêmes machines virtuelles que celles qu'on a dans Websites. En fait, on va uploader un zip qui contient soit un .cmd, soit une application console sous forme d'un exe, soit même un .sh puisqu'il y a le client Git qui est installé sur les machines websites. Donc on peut, enfin un .ps1, etc. Enfin on peut mettre pas mal de choses. Et donc on zip ça, on l'envoie et puis on dit je veux l'exécuter de façon continue ou je veux l'exécuter à telle heure, à tel moment. Donc ça s'appuie à nouveau sur le schedule. Une partie intéressante qu'on a dans les web jobs, c'est la partie SDK. Donc, alors qui est relativement indépendante des web jobs, mais qui est apparue avec les web jobs. Donc, c'est encore une version préliminaire pour l'instant. Donc, si on regarde au niveau du code, ce qui est intéressant, c'est que bon, vous êtes en train de faire une méthode process queue message, par exemple. En fait, ce qui vous intéresse en .NET, c'est d'écrire ça sous la forme d'un input text et d'écrire le résultat dans un text writer, par exemple. Donc, des types assez génériques en .NET. Et le lien avec le storage, puisque typiquement, vous allez interagir avec le storage quand vous allez faire ça sur vos batchs d'arrière-plan de votre site web. Ce lien-là va être fait en fait par des attributs qui sont ici. Donc vous allez avoir QInput, WebJobsQ, etc., etc. Du point de vue du code .NET qui est là, vous avez quelque chose d'assez générique et assez indépendant d'Azure ici. On a la même chose pour la partie blob, par exemple. On peut récupérer des streams qui viennent de blob storage et réécrire du blob storage. Donc là, par exemple, typiquement, on pourrait être en train de transformer une image pour changer sa résolution ou des choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller chercher Azure Web Jobs et vous trouverez quelques informations intéressantes sur ce genre de choses. Moi j'avais un worker role qui écoutait depuis un certain temps des tweets, parce qu'en fait, comme j'ai besoin de faire des démos sur du big data de temps en temps, les tweets c'est assez pratique pour ça. J'ai besoin d'écouter Twitter pour avoir un peu de stock. J'ai changé ce worker role pour en faire une application console. Et cette application console, ensuite je l'ai mise dans un web jobs. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Alors d'abord, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça stocke des tweets. Donc voilà. Si je vais dans Tweets, ça m'a pris il y a 3 mois. On est en juin et on a alors j'ai des tweets tous les jours. Là on est le 24. C'est comme ça que je sais quelle date on est en fait. Quand j'ai besoin de voir la date, je regarde et puis j'ai l'heure aussi. Voilà. Donc ça c'est ce que ça fait en fait, c'est que ça accumule des tweets et ça les met dans des points gzip. Donc un tweet c'est un JSON qui fait 1K à peu près, hein. Et puis là il doit y avoir à peu près 20 000 tweets à peu près. Non un peu plus puisqu'ils sont gzippés. Ça les accumule et ça les met dans le blob et puis ensuite ça passe à d'autres tweets, etc. Donc comment est-ce que ça fonctionne en termes de code? Je vais vous montrer ça dans Visual Studio Online puisque je l'ai mis dans un repository Git. Qui est dans visualstudio.com, dans mon répertoire visualstudio.com. Je peux le voir comme ça si je vais dans code source, etc. La première chose, c'est que c'est une application console. Cette application console a un code très compliqué qui met beaucoup de temps à se charger. Voilà. Ce code-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, quand le main arrive, il dit tiens, je vais me donner un guide. Après, il met des traces en disant voilà, je suis. Enfin, il fait un trace write line en disant je suis telle instance, je suis en train de démarrer, etc. Et en fait, la partie intéressante, c'est que il lance des tâches en fait dont une va écouter Twitter. On va voir deux choses. Dans la partie BDT 3.4 lib, j'ai la partie trace. Donc le trace write line, c'est cette classe trace qui est là. Ce qui nous intéresse ici, simplement, c'est le fait que les traces en fait se font vers l'Azure Storage. Azure Table, les mêmes Azure Table de la première démo de Thomas tout à l'heure. Sauf que j'ai pas fait de géo-réplication là. J'écris dans un data center. Ça m'écrit les traces ici. J'ai une méthode qui fait le trace write-line. C'est celle-là, qui écrit. J'ai une méthode qui me renvoie les n dernières traces, ce qui me permet, par exemple, quand je vais dans mon interface web, parce que c'est un Azure Website, mais j'ai quand même mis un site web. Alors je me suis pas beaucoup foulé hein, au niveau de. J'ai repris l'exemple ASP.NET et j'ai rajouté quand même un menu trace qui fait appel à l'appel des n dernières traces. Donc là, en l'occurrence, les 30 dernières. Ça me donne les traces. J'ai fait un truc de dingue. J'ai coloré en fonction du type de trace, puisque ça me dit si c'est du warning, des choses comme ça, enfin voilà, ou des erreurs. Alors là, il y a eu plein de warnings, par exemple. Bon. Donc très bien. Ça, ce sont les traces. Et puis j'ai également mon code Twitter. Donc là, ce code-là, c'est du code qui va récupérer, alors dans le storage table, j'ai aussi un token qui est OAuth, qui me permet d'accéder à mon interface Twitter. Et puis, c'est là où je vais aller lire les différentes informations, jusqu'à ce que je les écrive dans le blob. Et si je ne me trompe pas, la ligne que je voulais vous montrer est la ligne numéro 249. Je crois que c'était 242, mais c'est celle-là, tout bêtement, qui va de façon asynchrone aller faire un write async de type stream sur le blob storage. Donc voilà, et puis en fonction du nombre de blobs, enfin de nombre de tweets qu'il a déjà reçus, ou du fait que ça fait un certain temps que il attend et qu'il n'a pas reçu de tweet, etc., il va fermer le blob et passer au blob suivant, etc. Enfin bref, peu importe. Très bien, donc ensuite, ce qu'on peut voir, c'est l'exécution de ce web job. Hop. Donc c'est dans Websites, c'est dans BDT34 qui est là, donc comme Big Data Tools. Voilà, et donc là, j'ai le site web lui-même, c'est l'interface que vous voyez ici. Donc si vous y allez, normalement, il devrait vous demander une authentification, parce que j'ai besoin là, je m'y connecte avec un compte Azure Active Directory, puisque c'est ce qui est le plus simple en l'occurrence. Et puis, sur la partie Web Jobs, donc là, j'utilise la version actuelle, hein, qui est une version de preview. Au pire, ce qui peut m'arriver, c'est de louper des tweets. Donc c'est pas très grave. Ou de ne pas voir mon interface. Allô? Mon portail s'est vexé. Alors, en attendant, je vais vous montrer, je ne sais pas pourquoi il est resté, on va lui laisser un peu de temps. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, donc là, j'ai mes traces, donc je suis sur mes comptes de stockage, là. Donc, j'ai mes comptes de stockage, j'en ai créé plein, parce que comme on peut mettre que 200 Tera dans chaque compte, j'en ai créé quelques-uns, non, je plaisante. Ici, j'ai... dans les tables, le BDT 3.4 trace 2 qui contient mes traces. Donc, c'est les mêmes traces que celles que vous avez vues dans l'interface web et qui sont écrites par mon trace.cs. Voilà, donc là, bon, il y a le fait qu'il ait commencé à écouter le 18 juin. Donc il écoute depuis le 18 juin, sans discontinuer. Puis avant, il avait eu des exceptions, etc. Donc un paquet d'exceptions et tout. Bon, très bien. Donc ça, j'ai mes traces qui sont ici. On va voir si lui s'est chargé. Donc vous voyez, c'est instantané. Web Jobs, hop. Et à partir de là, je peux aller dans la console. Donc la façon de créer, donc ça c'est l'interface que je vous montrais tout à l'heure dans PowerPoint, là ça fait plus vrai. Donc là je donne un nom à mon web job, j'upload un zip et je dis est-ce que je veux que ça tourne à un moment particulier, juste à la demande ou en continu. Donc très bien. Et ici je peux suivre l'exécution, donc je me retrouve toujours dans le SCM, là le fameux, en disons un peu les coulisses du website qui sont là. Donc c'est le nom de mon website .scm.azurewebsites.net. Et puis là, bah, j'ai une espèce de console qui me dit que ce qu'il est en train de faire. En fait, en gros, il dit juste quand il démarre ou quand il s'arrête. Hein, donc voilà. Et donc là, effectivement, c'est cohérent. Il dit qu'il a démarré le 18 juin. Alors, t'entends, les heures changent parce qu'il y a UTC ou pas UTC, mais c'est toujours la même heure quand même. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller récupérer ça pour les analyser. Donc, ce que j'ai fait, c'est, hop, je suis allé dans Excel. Et puis, là, j'ai une intégration, donc, dans Power Query. Qui connaît Power Query dans Excel? Très bien. Donc, pour les autres, c'est une sorte d'ETL dans Excel, mais pour utilisateur final, enfin, c'est utilisable, hein, c'est pas mal. Donc là, par exemple, je vais aller chercher dans Windows Azure Table Storage. Donc je peux aller chercher dans le blob storage, etc. Donc là je vais dans table storage, je tape le nom de mon compte de stockage. Donc là comme c'est un compte de stockage que j'ai déjà utilisé, normalement il va pas me redemander de créer d'identité puisque je les ai déjà saisis. Alors hop, ensuite je vais dans Wasm Shared. Et là, je peux dire, bon, ben, je veux récupérer les informations dans BDT trace machin. Donc je double-clique. Je peux aller dire, par exemple, que là, ce qui m'intéresse, j'étends le truc et je vais lui dire, ben, ce qui m'intéresse, c'est le message type et l'heure à laquelle c'est arrivé. Bref, je choisis les colonnes qui m'intéressent. Je peux virer celles qui ne m'intéressent pas. Par exemple, la row key n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, très bien. Et puis ensuite, je lance le téléchargement. Alors, je ne vais pas faire ça parce que, en fait, je l'ai déjà fait et il y a quelque chose comme 25 mégas de. Alors, discard. Il y a quelque chose comme, je ne sais plus, ou 40 mégas de log. Donc, je vais plutôt vous montrer les choses une fois téléchargées dans mon tableau Excel. En gros, c'est comme ça que j'ai fait. Hop, et là on les voit pas parce qu'elles sont dans Power Pivot. Qui connaît Power Pivot? À peu près les mêmes. Ça m'étonne pas. Donc tout ça c'est du Power BI. Et donc j'ai mon data model qui est ici. Donc on voit là que j'avais en fait 272 000 enregistrements de traces. Bon, mon code est peut-être pas optimisé, peut-être que de temps en temps je pourrais vérifier avant de répéter la même trace ou la même erreur. Faudrait que je vérifie un peu, enfin peu importe. Donc j'ai mes 300 000 traces à peu près qui sont ici. Et puis là, je rajoute des colonnes calculées. Donc par exemple, j'ai dit, bah, ce qui m'intéresse en fait, c'est que je voudrais savoir par heure en fait ce qui se passe. Donc j'ai une colonne calculée comme ça. Ensuite, j'arrondis et puis j'ai mon heure, j'ai ma date heure arrondie, puis j'ai mes warnings, mes débuts de message ou mes messages. Complet, etc. Et puis, je peux avoir des champs calculés là, avec les autosummes, etc. Enfin bref, je vous passe le détail. Et ça me permet ensuite d'aller faire un Power View. Là, je vais dans un Insert. Power View. Qui connaît Power View? Ah, il y en a un peu moins. C'est bizarre. Normalement, c'est les mêmes. Et dans Power View, je vais en fait avoir, par exemple, là j'ai fait, comme j'ai ma table des traces, en fait, j'ai des espèces de tableaux avec, par exemple, sur ce graphe-là, qu'est-ce que je vais avoir comme colonne? Je vais avoir la date heure arrondie, le nombre de messages qui sont disponibles et le nombre de messages différents. Ou alors ici, j'ai par exemple, dans ce graphe qui est là. Je vais avoir à peu près les mêmes choses, et puis là, je vais avoir les messages eux-mêmes. Donc, par exemple, si je me dis, tiens, là, il y a un pic, le 7 juin, par exemple, j'ai eu 39 935 traces. Faudrait que je revoie le code, hein, mais. Et en plus, visiblement, quand je fais le distinct, j'ai que un truc. C'est la même trace, mais 39 335 fois. Donc, bon, il y a de quoi améliorer le code. C'est un warning. Donc je peux recliquer, alors soit au même endroit. Et voilà. Et puis là, j'ai à nouveau tout. Et puis je peux voir aussi bah, comment est-ce que ça évolue dans le temps. Donc voilà, le warning, les exceptions, etc. Je peux m'arrêter, regarder en particulier, par exemple, juste le warning et voir comment est-ce que ça évolue. Alors ça monte, ça descend, etc. Donc c'est un moyen d'aller analyser les traces que vous pouvez mettre dans le blob storage avec Excel et Power BI. Très bien. Donc alors maintenant, c'est très bien, on a vu qu'on avait pu récupérer des traces qui étaient écrites par le code, mais pour le reste, comment est-ce que ça se passe? Alors pour websites, vous avez la possibilité de mettre des traces applicatives qui seraient l'équivalent du système Trace Brightline, par exemple, que vous allez mettre dans du blob storage. Et vous pouvez aussi avoir les logs IIS directement dans du blob storage. Vous pouvez les mettre avec un logging level, etc. Enfin bon, ça c'est sur les applications et ça c'est sur la partie IS. Et là la partie donc site où vous allez, non pardon, alors ça c'est applicatif, vous pouvez le mettre, pardon, dans le blob ou dans les tables, et puis dans les tables ou les blobs, et là vous avez la partie IIS. Vous avez une période de rétention aussi si vous voulez pas vous retrouver avec vos 200 Tera remplis en quelques jours, voilà. Ensuite, vous avez Storage lui-même, qui peut lui-même écrire dans lui-même. C'est une façon de rajouter des logs sur ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, si vous voulez avoir des logs sur quels sont les gets qui ont été faits, les puts, les posts, etc., tous les éléments sur le Blob Storage, vous pouvez le configurer ici avec une retention policy, etc. Et vous allez retrouver ça dans un répertoire particulier qui s'appelle $logs. Voilà. Et vous avez aussi une table avec des dollar metrics, etc., qui sont utilisables. Donc, on a vu cette partie-là. Du coup, qu'est-ce que je voulais montrer avant? J'ai sauté une démo, j'ai pas fait la bonne démo. Non, c'est bon. J'ai fait deux démos en même temps. OK. Maintenant, là, j'avais que 272 330 traces. Imaginons que j'en ai eu 100 fois plus, par exemple. Peut-être que Excel aurait un peu tiré la langue. Ce que vous pouvez faire en amont d'Excel, c'est mettre du HD Insight. HD Insight, c'est du Hadoop en tant que service. Vous pouvez le lancer. Je vois Alchemix, par exemple, il lance Hadoop depuis Linux en faisant des appels REST en Python, je crois. Et ça a créé un cluster Hadoop, qui est en Windows, c'est plutôt rigolo. Et ensuite, ils exécutent des jobs. Alors, on peut exécuter des jobs Pig, Hive, etc. Hive, c'est du SQL, donc ça permet d'aller manipuler les traces les traces ou les logs assez facilement avec du Hadoop sans forcément bien connaître Hadoop. Si à l'inverse, vous connaissez pas mal Hadoop, je vous invite à venir le 30 juin dans cette même salle, le soir, où il y a le Hadoop User Group qui aura lieu ici, d'habitude. Alors, ça se balade tout le temps, hein, le Hadoop User Group. Donc, vous pouvez aller sur akms/30 juin. Très bien. Donc, voilà en gros pour ce qu'on peut faire sur des batchs, sur la gestion des logs, des traces, etc. Bon, évidemment, on peut rentrer dans le détail de plein d'autres choses. Et puis, voilà.